de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Pour la première fois depuis mars, le Canada n'a signalé aucun décès par corona. Hong Kong a assoupli la distance physique. Le Bahreïn ouvre des relations diplomatiques avec l'Israël. L'Indonésie insiste le Myanmar de résoudre les causes profondes des problèmes des Rohingyas. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Les autorités canadiennes n'ont signalé aucun décès dû au virus corona au cours des dernières 24 heures sur son territoire. Ce sera le premier moment depuis le 15 mars pour que le Canada déclare zéro décès en une journée, tel que rapporté par Reuters samedi. Les dernières données du département de la santé publique du Canada indiquaient que le total des décès dus à corona dans sa région atteignait 9163 personnes. Ces données ont été enregistrées au 11 septembre. Aucun décès supplémentaire n'a été signalé par le Canada au vendredi, heure locale. Dans son rapport, le département canadien de la santé publique a annoncé 702 cas de corona au cours des dernières 24 heures. Avec cet ajout, un total de 135 626 cas corona sont maintenant enregistrés au Canada. Hong Kong a assoupli la distance physique. Hong Kong a assoupli les règles de distance physique après que le cas de COVID-19 ont commencé à décliner. C'est probable qu'on rouvrira Disneyland. Selon Variety, samedi, on a fermé Disneyland le 23 janvier 2020, puis on l'a rouvert le 18 juin. Le 15 juillet, le parc a de nouveau fermé en raison de la troisième vague de la coronavirus à Hong Kong. Deux parcs appartenant au gouvernement, Disneyland Hong Kong et Ocean Park, pourraient être autorisés à rouvrir le 18 septembre 2020. Mais aucune information n'est disponible sur le site web de Hong Kong Disneyland ou sur les réseaux sociaux. D'autres mesures d'assouplement à annoncer comprenaient la fin d'interdiction des foules de plus de 2 personnes et on les a remplacées par un maximum de 4. En outre, on a également rouvert plusieurs sites sportifs et lieux de divertissement dont des cinémas. Le gouvernement de Bahreïn et l'Israël conviennent d'établir des relations diplomatiques complètes. Le président américain Donald Trump a annoncé l'accord samedi, heure locale, et on l'appelle l'accord historique. Dans une déclaration conjointe, les États-Unis, le Bahreïn et l'Israël ont déclaré que l'accord avait été conclu après que Trump s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le roi de Bahreïn Hamad bin Isa Al-Khalifa. Comme rapporté Al Jazeera, il s'agit d'un processus historique pour parvenir à la paix au Moyen-Orient. Cet accord a été conclu après que les Émirats arabes unis ont également annoncé la normalisation des relations avec l'Israël le mois dernier. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie a insisté le gouvernement de Myanmar à résoudre les causes profondes des problèmes des Rohingyas. La ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, Madame Retno Marsudi, a déclaré samedi lors d'une conférence de presse virtuellement. L'Indonésie a souligné la nécessité d'efforts concrets par un rapatriement sûr, volontaire, digne et durable vers le lieu d'origine dans l'état de Rakhine. L'attitude de l'Indonésie sur le Myanmar a été exprimée dans divers forums internationaux, y compris la 53e réunion ministérielle de ASEAN du 9 au 12 septembre. Elle a ajouté que l'Indonésie a également insisté sur la nécessité d'un partage des responsabilités, notamment entre les pays parties à la Convention sur les réfugiés de 1951, les organisations internationales et l'organisation non gouvernementale qui se sont préoccupées de cette question. La ministre Retno Marsudi a souligné l'importance d'apporter une contribution réelle à la question des migrants en situation irrégulière. La question est devenue un problème régional lorsque les réfugiés Rohingyas aient refusé la citoyenneté au Myanmar. Après avoir migré illégalement des camps de réfugiés de Cox Bazar au Bangladesh vers d'autres pays à la recherche d'une vie meilleure. Le directeur général de financement et de la gestion des risques du ministère des Finances, Lucky Alfriman, a déclaré que l'amélioration de la qualité des ressources humaines était la clé pour faire de l'Indonésie un pays à revenus élevés. Lucky, lors d'une discussion en ligne à Jakarta samedi, a déclaré, selon l'analyse d'institutions internationales telles que McKinsey, l'Indonésie avait le potentiel pour devenir le cinquième pays au monde à revenu élevé en 2045-2050. Il a expliqué qu'actuellement, l'Indonésie est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, anciennement un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Il a souligné que dans un effort pour atteindre le potentiel de devenir un pays à revenu élevé, le gouvernement est chargé de créer une jeune génération pleine d'innovation et de créativité. Le gouvernement étudie la possibilité de construire une route à péage à Labuan Bajo. Le chef du bureau des relations publiques du secrétaire régional de la province de Nusa Tenggara Est, Marius Ardo Jelamu, a déclaré que le gouvernement examinait la construction de routes à péage pour améliorer l'accès au transport à Labuan Bajo, la région de Manggarai de l'Ouest, l'île de Flores, en tant que zone touristique de grande qualité. Marius Akupang Samdi a donné un exemple comme avant à Bali. Il n'y avait pas de route à péage, mais en raison de la nécessité d'une réunion de la paix, on a construit une route à péage de l'aéroport à Nusa Dua. Il a expliqué que la route à péage est un investissement du secteur privé, de sorte qu'à l'avenir, si le gouvernement juge nécessaire de construire une route à péage à Labuan Bajo, on va coopérer avec des investisseurs, tant nationaux que étrangers. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir à tous, Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « La capitale de Jakarta a de nouveau appliqué des restrictions sociales à grande échelle ». Le gouverneur du DKI Jakarta, Anies Baswedan, mercredi dernier à Jakarta, a annoncé que la propagation de plus en plus inquiétante du virus COVID-19 dans la capitale de Jakarta a provoqué la réapplication des restrictions sociales à grande échelle, ou PSBB, par gouvernement provincial du DKI. Il a déclaré que la décision du gouvernement local était basée sur de quelques raisons, à savoir le taux de mortalité élevé dû au virus corona, le nombre de lits de soins intensifs remplis et de lits pour les patients corona à Jakarta. Anies a expliqué que la décision était conforme à l'ordre du président Joko Widodo pour le traitement de COVID-19. On avait priorisé l'aspect sanitaire afin que l'économie puisse fonctionner. Dans le même temps, le chef des médias et de l'opinion publique au ministère de la Santé, Busroni, a déclaré que le gouvernement provincial des KI de Jakarta n'avait pas besoin de demander à nouveau au ministère de la Santé l'autorisation concernant le plan de réapplication des restrictions sociales à grande échelle. En effet, l'autorisation de mise en œuvre de restrictions sociales à grande échelle, qui avait été précédemment délivrée par le ministère de la Santé le 7 avril 2020, n'a pas été révoquée. Selon Busroni, en tant que responsable régional, Anies Baswedan a le pouvoir de déterminer s'il réalisera les restrictions sociales à grande échelle dans son intégralité ou de manière transitoire. La mise en œuvre de restrictions sociales à grande échelle dans la capitale Jakarta débutera lundi le 14 septembre 2020. Auparavant, le gouvernement provincial de DKI Jakarta a mis en œuvre les restrictions sociales à grande échelle au début de la pandémie. Il avait assoupli cette condition avec le statut de restrictions sociales à grande échelle de transition qui a été prolongé jusqu'à 5 fois depuis le 5 juin dernier. À partir du lundi 14 septembre, les activités de bureaux non essentielles à Jakarta reprendront le travail à domicile. Cependant, les bureaux essentiels sont toujours autorisés à fonctionner. Il existe 11 secteurs d'activité autorisés à opérer à l'extérieur du domicile. Les secteurs qui peuvent fonctionner comprennent la santé, les denrées alimentaires, l'énergie, les technologies de la communication et de l'information, la finance, la logistique, l'hôtellerie, la construction, les industries stratégiques, les services de base, les services publics et les industries désignées comme objets vitaux nationaux et certains objets ainsi que les besoins quotidiens. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 13 septembre. On commence par le 13 septembre 1916, la naissance de Roald Dahl. Roald Dahl était un écrivain bien connu d'origine norvégienne, né au pays de Galles, en Angleterre. Ses écrits bien connus prennent la forme de romans et de récits pour enfants et adultes. Il a également écrit un scénario de film. Il est l'un des auteurs les plus vendus au monde. Il est l'un des meilleurs écrivains littéraires pour enfants du XXe siècle et figure parmi les 50 meilleurs écrivains de Grande-Bretagne depuis 1945. Ses œuvres les plus célèbres sont Charlie and the Chocolate Factory,
James et the Giant Peach, Mathilde, The Witches, Big Friendly Giant et Kiss Kiss.
Le 13 septembre 2007, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est une déclaration adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 61e session au siège des Nations Unies à New York le 13 septembre 2007. Cette déclaration décrit les droits individuels et collectifs des peuples autochtones ainsi que leurs droits à la culture, à l'identité, à la langue, à l'emploi, à la santé, à l'éducation et à d'autres questions. La déclaration souligne également leur droit de maintenir et de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et leur droit au développement pour répondre à leurs besoins et aspirations. La déclaration interdit également la discrimination contre les peuples autochtones et encourage leur participation pleine et effective. Le 13 septembre 2008, attentat à la bombe de Delhi. Le 13 septembre 2008, il y a eu une série d'attentats à la bombe dans cinq endroits à Delhi, en Inde. La première bombe a explosé à 18h07 heure locale et a été suivie d'explosions sur quatre autres sites et quelques minutes d'intervalle. Au moins 30 personnes ont été tuées et 100 ont été blessées. Le groupe indien Mujahideen a revendiqué la responsabilité de l'incident. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Bilang suka engkau tersipu malu lalu aku bilang sayang wajahmu merah merona lalu harus bagaimana lagi darah cara untuk mendapatkan diri Katakanlah saja bila benar-benar cinta Jangan kau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh Katakanlah saja bila benar-benar sayang Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu Cinta. Wajahmu tertunduk ragu Lalu aku bilang sungguh-sungguh sayang Lagi-lagi kau membisu Lalu harus bagaimana lagi jarak untuk mendapatkan dirimu Katakanlah saja Bila benar-benar cinta Jangan engkau ragu-ragu Karena ku sungguh-sungguh Katakanlah saja Bila benar-benar sayang Jangan-jangan buat aku Terlalu lama menunggu Katakanlah saja Bila benar-benar Katakanlah saja bila benar-benar sayang Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu Oh iya yeah, oh 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 yeah oh 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 yeah
bagaimana lagi cara, cara untuk mendapatkan dirimu. Oh, oh, katakanlah saja bila benar-benar cinta, jangan kau ragu-ragu karena ku katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat lalu lama
C'était la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voici mon Indonésie intitulé « L'Indonésie ne manquera pas d'athlètes talentueux ». Le président Joko Widodo estime que cela n'a aucun sens si l'Indonésie en tant que grand pays manque d'athlètes. Selon le président, sur une population de plus de 270 millions d'habitants et la majorité de la jeune génération, il doit y avoir des millions de personnes talentueuses. Cela a été dit par le président Jokowi lors de l'événement virtuel de pointe de la Journée nationale du sport 37 en 2020, à laquelle ont participé des ministres indonésiens avancés, des gouverneurs, des responsables du Comité national des sports indonésiens, du Comité olympique indonésien et des athlètes au palais présidentiel de Bogor mercredi dernier. Selon le président, le développement de l'athlète doit tirer parti des dernières avancées scientifiques et technologiques. Le président a ajouté non seulement pour le développement d'un centre de formation basé sur la science, mais aussi pour une meilleure gestion de la formation. Avec le développement de systèmes d'information et de big data analytique, on sera en mesure de détecter des candidats sportifs qualifiés. Le président a également ordonné au ministre de la Jeunesse et des Sports, Zainuddin Amali, d'inviter toutes les parties lié à repenser le système d'entraînement des athlètes à grande échelle. Le président Jokowi a souligné qu'en tant que grand pays, l'Indonésie doit avoir un grand nom dans les compétitions sportives sur la scène internationale. À cette occasion, le président a exprimé sa reconnaissance aux athlètes qui se sont battus pour hisser le drapeau rouge et blanc et rendre l'Indonésie fière dans les arènes internationales. Le président Joko Widodo a également révélé que le sport a un rôle très important dans la vie en tant qu'individu ainsi qu'en tant que société et nation. Selon le président, le sport construit le caractère de la discipline et de l'esprit sportif. Le président a déclaré que gagner et perdre sont monnaie courante, renforçant le caractère des combattants et des travailleurs acharnés, de la collaboration dans le travail d'équipe et même l'esprit de patriotisme et de nationalisme. Le sport doit être une base quotidienne pour les citoyens, pour les employés, pour toutes les parties dans les bureaux gouvernementaux, les entreprises et diverses autres organisations. Cela signifie, selon le président, que le sport n'est pas seulement une affaire individuelle, ni seulement du ministère de la Jeunesse et des Sports, mais aussi une affaire de tous les niveaux de la société. Le président vous souhaite une bonne journée nationale du sport. ang tegrelesport a ang mode de visang, in société sen dong ang pays fort, créons un nouvel esprit sportif pour une Indonésie avancée.
Thank you.
de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, cette fois, nous présentons l'île de Tabuhan à Banyuwangi. L'île de Tabuhan est située au milieu du détroit de Bali, le détroit qui sépare l'île de Java et l'île de Bali. L'île de Tabuhan comprend le village de Bangsering, le sous-district de Wongsorejo, la région de Banyuwangi, Java de l'Est. On l'appelle l'île de Tabuhan parce que le vent dans cette région est assez fort et cela ressemble à de la musique percussion. L'île de Tabuhan, qui a une superficie d'environ 5 hectares, est une petite île inhabitée située dans la zone nord de Banyuwangi. Chers auditeurs, l'île de Tabuhan est unique car elle a du sable blanc et de l'eau claire. Le sable blanc est propre. L'eau de mer claire et les récifs coralliens aux formes variées enchantent les visiteurs qui viennent sur l'île de Tabuhan. En plus de cela, le bruit des vagues douces, la douce brise de la plage et la vaste étendue de la mer rendent cet endroit vraiment approprié pour ceux d'entre vous qui veulent être loin du bruit de la ville pour une sérénité. Sur cette plage de Tabuhan, vous pouvez également vous bronzer, nager sur la plage, faire de la plongée sous-marine et de la plongée avec tuba pour profiter de la beauté exotique sous-marine. En plus de cela, vous pouvez également profiter de la riche flore et faune de cette île de Tabuhan. Chers auditeurs, la couleur de l'eau sur la plage de l'île de Tabuhan se divise en trois dégradations de couleurs, à savoir le blanc, le vert et le bleu, selon le type de biote et la profondeur de la mer. La couleur claire est pour les plages peu profondes, car en dessous se trouve du sable blanc, et le vert pour les plages de profondeur moyenne, car en dessous se trouvent des récifs coralliens et des algues. Alors que la couleur bleue est pour les eaux suffisamment profondes, car en dessous, il y a différents types de récifs coralliens. Chers auditeurs, le seul moyen de transport pour aller à l'île de Tabuhan est d'utiliser un bateau de pêche, ce qui prend environ 25 à 30 minutes en payant 300 000 rupiahs à 500 000 rupiahs pour une capacité de 12 personnes. Si vous voulez une courte pause de votre routine, planifiez cette île de Tabuhan comme destination de vacances. Le meilleur moment pour traverser cette île est le matin.
hidupku. Seorang diriku dan kamu bagai sepasang
auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Cette édition s'agit du robot d'arrosage des plantes de l'Institut de l'Agricole de Bogor, ou IPB. Le professeur de l'Institut Agricole de Bogor, ou en indonésien, Institut Pertanian Bogor, ou abrégé en IPB, du département d'informatique de la faculté de mathématiques et des sciences naturelles, ou FMIPA, Dr. Carlisa Priandana est l'étudiante du programme d'études en génie informatique de l'école professionnelle de l'IPB, Friska Alvionita Gilda, ont développé un robot innovant pour l'arrosage des plantes. Le robot d'arrosage des plantes est un simple robot équipé de navigation suiveuse de lignes et utilise des capteurs à ultrasons pour détecter la présence de peau. Il a également équipé le robot d'une pompe à eau automatique pour l'arrosage de plantes. Dr. Carlisa, par un communiqué de presse vendredi, a déclaré qu'il avait testé le robot d'arrosage à la serre du département d'informatique FMIPA-IPB.
Les résultats des tests montrent que le robot a pu remplir correctement ses fonctions. Elle espère que ce robot pourra faciliter les agriculteurs pour l'arrosage des plantes. Elle espère également que ce robot pourra être une solution au problème de la crise de la régénération des jeunes agriculteurs grâce à l'agriculture 4.0. Elle a expliqué que l'agriculture 4.0 est une agriculture urbaine intelligente dans des serres en utilisant des robots pour arroser les plantes. Dr. Carlissa a déclaré que le développement à faire à partir du robot consiste à modifier plusieurs composants et à augmenter la taille du cœur du robot afin que le robot puisse transporter un tube d'eau plus grand. De plus, il est nécessaire d'ajouter un mécanisme pour qu'il puisse remplir automatiquement l'eau du tube à partir du réservoir ou du robinet d'eau. De cette façon, on peut utiliser le robot dans un environnement plus large. En outre, la qualité et les spécifications des composants électroniques, en particulier des capteurs de ligne, doivent également être améliorées afin que le robot puisse fonctionner correctement dans toutes les conditions d'éclairage. Voilà l'Indonésie en couleur.
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh biar awan pun gelisah daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat
cintaku rasa
Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Voice of Indonesia. L'équipe de l'émission française de Voice of Indonesia vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et les messages. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et comme d'habitude, nous allons également présenter une chanson indonésienne. Dans cette édition, je vous présenterai une chanson du groupe Noah. Noah est un groupe composé de Ariel comme vocaliste, Uki comme guitariste, Lukman comme guitariste, David comme claviériste et de deux autres membres, Rio comme batterie et Lan-Lan comme bassiste. Après avoir sorti avec succès les singles Jalani Mimpi et My Situation, Noah a finalement publié la dernière chanson intitulée Wanitaku. Elle était la création de Ariel avec l'aide de musicien indonésien Pongki Barata. Cette chanson fait partie du quatrième album de Noah qui sortira en septembre 2019. Ariel a affirmé que pour le préparer, Noah avait besoin beaucoup de temps pour trouver l'inspiration. Mon cher ami, maintenant je vais dire bonjour à Merlin Mourad de BP15 4 Bicétif 19000 Algérie. Merci pour les rapports d'écoute. Et à Pierre Mouzolo Pouba de Box 545 Matadi 1 Congo Central RD Congo Central Africa. Et à Moro Giroletti de SWL 1510 de IK de GFT Fia Marzaboto, 720090 Bukinesco, Italie. Sergi Giovanni de Fia Sibari, 398149 Messina, Italie. Et Omar Lassas de BP, 530 Bureau de Poste Emir AEK de 9008 Mascara, Algérie. Comment va notre cher ami en France, Grandin René de 25 Terres de Chemin des Roses, 97418 Plaine de Cafre, Île de la Réunion, Océan Indien. Meilleures salutations à notre ami Hervé Duval de France. Salut à notre auditeur de Bogota, Colombia, Omar Alfredo Ortiz Robayo. Bien le bonjour en France, Jean-Marie Monplot, de 409 Faubourg Montmélian, 73000 Chambéry, France. Merci d'écouter Voice of Indonesia. Merci pour vos emails et restez toujours en contact avec nous. L'équipe de Voice of Indonesia vous dit un grand merci à tous. Et voici Noah avec la chanson dont le titre est Wanitaku ou en français Ma femme. Bonne écoute et à la semaine prochaine.
Sini takkan lukai ku wanitaku. Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.